Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Philippe Sansonetti.
Bonjour Patrick Cohen.
Professeur au Collège de France, professeur émérite à l'Institut Pasteur. Vous avez passé plus de 30 ans comme médecin et chercheur en microbiologie, spécialiste des maladies émergentes et des vaccins. Vous publiez au Seuil le recueil de vos essais et de vos chroniques pendant la pandémie, enrichie par votre regard d'aujourd'hui sous le titre « Tempête parfaite ». Expliquez-nous d'abord « Tempête parfaite », c'est l'expression que vous utilisiez entre spécialistes des maladies infectieuses ?
Plus ou moins, en fait, ça vient du monde anglo-saxon.
Perfect Storm.
Je sais pas si, voilà, The Perfect Storm. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film avec George Clooney,
ouais.
Où la partie la plus intéressante, c'est la première partie, c'était les prédictions météorologiques qui commençaient tout doucement à converger pour montrer que là, ça allait être la tempête parfaite. Tout était ensemble. Et au fond, c'est comme même bien le faire nos collègues anglo-saxons, une analogie avec... une épidémie dont les paramètres finalement commencent à émerger comme étant très très complémentaires pour donner lieu à une pandémie et à une catastrophe planétaire.
Et une catastrophe mondiale.
D'où tempête parfaite. Et généralement, le microbe en question, nos collègues anglo-saxons l'appellent the black swan, c'est-à-dire le cygne noir. Voilà, ça fait partie de ces terminologies qui passent même maintenant les barrières linguistiques.
Et vous faites partie, professeur Sansonetti, de ceux qui pensaient, savaient que cette tempête parfaite arriverait un jour ou l'autre, qui savaient, qui l'ont dit, mais qui n'ont pas été entendus par les pouvoirs publics. C'est l'un des objets de votre livre.
Oui, c'est difficile, hein. Je comprends parfaitement que... Parler de pandémie hors période de pandémie, ça n'excite pas énormément l'intérêt des populations et même des pouvoirs politiques en particulier. Je pense néanmoins que cette pandémie, cette fois-ci, sera quand même un signal important sur le fait que c'est quelque chose qu'il faut maintenant intégrer dans notre logiciel. On a intégré le réchauffement climatique, on a intégré la perte de biodiversité, les désordres écologiques, et ça y est lié d'ailleurs. Il faut maintenant intégrer la notion de pandémie. On ne peut pas recommencer, rentrer dans ce type de situation sans y être mieux préparé, en fait.
Et on rappelle que tempête parfaite, certains l'ont vu arriver lors de la dernière menace qui était H1N1, et que cette tempête n'est pas arrivée et que évidemment ça a contribué à la démobilisation d'aujourd'hui. On va revenir, Philippe Sansonetti, sur certains aspects de votre livre un peu plus tard, mais d'abord, selon vous, aujourd'hui, où en sommes-nous ? Le confinement, écrivez-vous, nous a fait revenir 3 mois en arrière dans l'évolution de l'épidémie. Est-ce qu'on est en train de reprendre le même chemin qui nous a conduit au confinement ?
Il n'y aura pas de même chemin, c'est ça qui est compliqué. En plus, c'est très évolutif. Moi, je pense un petit peu, on est un peu comme la situation en 1914, c'est-à-dire qu'on a une offensive, on a du mal, on s'enterre. Et puis ensuite, il faut bien remonter à la surface et faire quelque chose. Et là, la ligne de front s'est déplacée. Au fond, quelque part, on est dans une situation différente. On a en particulier les moyens de diagnostiquer, ce que nous n'avions pas lors de l'entrée dans la crise au mois de mars-avril, ce qui change considérablement la donne dans la mesure où on peut effectivement, comme vous le disiez au début, isoler les personnes trouvées positives et avoir une véritable action efficace de prévention sans avoir à revenir à ce confinement qui serait une catastrophe au point de vue économique et psychologique. Donc là, au fond, la ligne de front s'est déplacée. Elle est là maintenant sur l'efficacité du diagnostic, l'efficacité de l'isolement, car en dehors de ces mesures barrières, au fond, on est encore au même point que, par contre, en février ou en mars.
Même si les traitements se sont améliorés et si
la seule chose pour laquelle il y a une amélioration très très nette, c'est le traitement des patients en défaillance respiratoire aiguë en réanimation, mais pour le reste, on n'est pas plus loin.
Oui, alors l'efficacité des mesures de santé publique, des tests, des diagnostics, mais aussi le comportement de chacun. Qui est responsable de ce qui va nous arriver dans les mois à venir ? Est-ce que ce sont les autorités ou chacun d'entre nous dans nos comportements, Philippe Sansonetti ?
Vous connaissez mon sentiment là-dessus, je l'ai dit, je l'ai écrit, je pense que c'est nous d'abord.
Ouais.
Franchement, je l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas le seul, hein, ce n'est pas franchement très original. Notre destin, là, il est vraiment entre nos mains. C'est à nous de comprendre ce qui se passe et c'est à nous de prendre les mesures. L'État fait ce qu'il a à faire. Il le fait bien, il le fait mal, il le fait à retardement éventuellement. On a vu toute cette discussion sur les masques. Effectivement, c'est quand même étonnant qu'il ait fallu 6 mois pour passer de nos masques à masques pour tout le monde. C'est bon, il y a des choses à revoir certainement, mais il faut quand même qu'on comprenne que c'est nous d'abord et avant tout qui sommes ceux qui doivent faire les choses. Et il y a une nécessité de compréhension de la situation qui est clé dans toute cette affaire, ça c'est clair.
Il y a une expression que vous citez souvent, c'est celle de Charles Nicolle, pionnier de la discipline, qui parlait du génie des maladies infectieuses. Bon, c'est une sorte de génie maléfique. Est-ce qu'on a fini de décrypter, de comprendre le génie du SARS-CoV-2 et de la Covid, Philippe Sansonetti ?
Alors, il y a eu des progrès extraordinaires en l'espace de 6 mois. Hein. Vous l'avez vu au fur et à mesure. Mais je pense que il y a encore un génie des maladies infectieuses. On a vu l'efficacité extraordinaire du confinement dans les semaines qui ont suivi. La maladie avait presque disparu. Je veux dire, la circulation était devenue très très faible. Et puis elle reprend. On a du mal à au-delà des données objectives et de la compréhension, à comprendre totalement la dynamique de ces pandémies. Je pense qu'il y a encore des éléments qui nous échappent, et comme je le dis dans le livre, et comme on l'a dit, et je le dis beaucoup dans mes cours au Collège de France, la santé publique, en général, et en relation avec cette problématique des pandémies, est un sujet d'avenir extraordinaire, je dirais, pour des jeunes médecins ou scientifiques qui ont envie de faire quelque chose de passionnant pour le futur. Une discipline où vous pouvez mélanger les mathématiques, la physique, la biologie fondamentale, la sociologie, l'anthropologie. Comment on peut rêver mieux de mettre en place et de structurer, si c'en était besoin encore plus, cette approche des choses. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on rentre dans ce cycle d'une priorité de la santé publique dans ses aspects les plus fondamentaux.
Et de la médecine préventive.
Et de la médecine préventive, vous touchez un point qui m'est cher et qui est totalement lié. Je pense que, et je l'écris, notre pays est un pays qui fait formidablement bien dans le curatif. On l'a vu dans la prise en charge du Covid, on l'a vu dans les progrès de la réanimation, on l'a vu dans les TGV, on l'a vu dans tous ces problèmes ou ces aspects de logistique ou la qualité du traitement des médecins, des personnels de santé en général, la qualité de la logistique qui suivait était formidable en dépit des soucis qu'on peut avoir avec les hôpitaux à l'heure actuelle. Mais peut-être une dimension qu'on devrait considérer un peu plus, c'est que l'hôpital, on peut le protéger aussi en amont, c'est-à-dire on peut essayer d'améliorer la situation et d'éviter ces surcharges brutales telles qu'on les a vues au cours de cette pandémie. On a vu d'autres pays le faire manifestement beaucoup mieux que nous, et en règle générale, ce sont des pays qui effectivement ont, pour des raisons culturelles probablement, un système de prévention ou une espèce d'imprinting, si vous me permettez ce terme anglais, de l'importance de la médecine préventive dans leur cerveau et probablement largement parce que c'est mieux enseigné dans les universités, dans les facultés de médecine en particulier.
Professeur Sansonetti, tempête parfaite, on continue d'en parler dans un instant. Dans la tempête, il y a aussi la science, les scientifiques et les médias, les journalistes, vous en parlez, c'est tout de suite.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Avec notre invité, le professeur Philippe Sansonetti, auteur de Tempête parfaite, qui paraît cette semaine aux éditions du Seuil. La tempête, elle a été aussi pour la science et pour les scientifiques pris dans un tourbillon médiatique auquel ils n'étaient pas forcément adapté ou préparé. Je vous cite Philippe Sansonetti. La science n'est pas un catalogue de réponses toutes faites, c'est un processus en permanente évolution. Oui, le scientifique a du mal à communiquer, mais lui en offre-t-on vraiment l'opportunité, le contexte patient, attentif et dépassionné dont il a besoin pour s'exprimer? Cela s'apprend-il dans les écoles de journalisme? Il y a un conflit entre la science et les médias ou un défaut d'adaptation?
J'utiliserai pas le terme de conflit, même s'il y a des moments où je pense que vraiment il y a eu conflit, mais on peut pas dire, on faut pas globaliser cette situation. Mais je pense pour le vivre moi-même que l'exposition du scientifique sur le plan médiatique est un exercice extrêmement difficile, car on voit au fond la collision entre l'exigence côté média d'une certaine immédiateté, d'un certain commentaire généralement relativement polarisé, oui-non, blanc-noir. Et ça, c'est très difficile pour un scientifique, parce que ce n'est pas comme ça qu'on est formé, ce n'est pas comme ça qu'on pratique la science, on la pratique par essai, échec, succès, analyse, contrôle. Il y a toute une éthique à la limite scientifique qui va falloir intégrer, discuter avec l'éthique journalistique. Et à mon avis, c'est un sujet formidable pour l'avenir. Et si le Covid nous aura apporté quelques aspects positifs, je pense que ça peut en être un. Je pense que c'est une opportunité formidable pour qu'on réfléchisse ensemble, oui, journalistes, scientifiques, médecins, à ce que sera demain la communication dans les périodes de crise comme celle qu'on est en train de vivre.
Oui, mais la voix des scientifiques a aussi été perturbée par des voix dissidentes. Le grand public a l'impression qu'il y a, eu un conflit entre scientifiques, ils sont pas d'accord, etc. Ouais. La réalité, enfin, je pense que vous en êtes d'accord, c'est qu'il y a un grand nombre de scientifiques qui partagent globalement la même vision de ce qui nous est arrivé. Et une série de voix dissidentes, Philippe Ponsonnet.
Alors bien sûr, il y a des voix dissidentes, c'est d'ailleurs normal, c'est compréhensible. Si j'ai quelque chose à dire par rapport à la question que vous posiez, c'est peut-être qu'effectivement, il serait important que les journalistes puissent mieux faire la part des choses. C'est-à-dire que cette exposition médiatique excessive des personnes qui ont cette approche dissidente, comme vous l'appelez, du sujet, me paraît effectivement quelque chose qui ferait partie de cette rediscussion dont on parlait à l'instant. Je pense que cette façon de traiter les choses tend à valider cette notion maintenant qui est quasiment un lieu commun, c'est-à-dire que les scientifiques ont des avis divergents, les scientifiques ne sont pas d'accord. Ce qui n'est pas vrai, fondamentalement. Les scientifiques, comme vous le dites d'ailleurs vous-même, sont dans une situation d'évolution, de la progression d'un événement, d'une crise comme celle qu'on vient de vivre. Ils l'analysent et généralement, leurs avis sont relativement cohérents. Les choses qui sortent véritablement du schéma doivent être prises avec beaucoup plus d'esprit critique, à mon avis, et moins exposées médiatiquement. C'est en tout cas...
On n'en prend pas le chemin. Parmi les dissidents, il y a les promoteurs ou le promoteur de l'hydroxychloroquine. Vous parlez d'une campagne utilisant la peur des patients qui a attisé un populisme médical alimenté par un argumentaire complotiste.
Oui, je pense, j'utilise des mots peut-être un petit peu durs, je pense que les personnes, la personne qui est au fond dans cette histoire, s'est laissée entraîner et au fond, lorsqu'on commence à mettre le doigt dans ce type d'engrenage, les choses se précipitent, il y a un effet boule de neige qui, je trouve, a été absolument désastreux pour l'image que ça donne de la science, justement.
À l'origine, il faisait le même métier que vous, microbiologiste.
Oui, bien sûr, c'est un microbiologiste éminent,
Didier Raoult,
qui connaît très très bien la microbiologie, qui a fondé ce centre, cet IHU de la Méditerranée. Donc, pourquoi réussir à combiner une carrière tout à fait honorable sur le plan scientifique avec cette espèce d'attitude complotiste et populiste qui, en fait, on le voit bien, a nui considérablement. Et à l'arrivée, tout ça a fait pchit. Les Marseillais, malheureusement, sont en train d'attraper le Covid comme les Parisiens. La chloroquine, malheureusement, fait la preuve de son efficacité in vitro, in vivo.
Inefficacité.
Voilà. Oui, d'inefficacité, oui. Donc, voilà, on en est là. Et tout ça pour ça.
Et la défiance continue.
Et la défiance qui continue.
Vous inquiétez à propos d'un futur vaccin. C'est une autre de vos spécialités, mais on n'a plus le temps d'en parler. On en reparlera sans doute à l'occasion de la, de l'avancée des laboratoires et des recherches là-dessus. Vous avez signé un vaccin il y a 3 ans chez Odile Jacob. Pourquoi ils sont indispensables. Votre livre qui paraît cette semaine, Philippe Sansonetti, Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée au seuil. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.